Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors justement, il est là pour vous informer, pour vous chouchouter. Il rigole déjà, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas de micro.
Bonjour, je vous ai retrouvé votre voix et donc je pense que vous êtes très contente de la faire partager.
Ben oui, hier c'était un peu cassé, mais aujourd'hui c'est ça va mieux grâce à vos bons soins, évidemment.
Exactement.
J'ai beaucoup de chance.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la grossesse et notamment à l'alimentation de la femme enceinte. Que faut-il mettre dans son assiette pour que la future maman et le bébé à venir se portent bien? Nous parlerons aussi de ces bobos comme les nausées ou les remontées acides notamment, qui peuvent parfois pourrir la vie des femmes enceintes. Comment y remédier? Eh bien, pour en parler, nous recevrons Anna Roy, elle est sage-femme libérale à Paris. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien. Focus sur les enfants de la Lune, un très joli nom, mais qui est en fait une pathologie génétique rare. On va vous expliquer ce que ça signifie précisément pour le quotidien des enfants touchés. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra aux inquiétudes d'un jeune homme dont les poussées d'eczéma perturbent grandement son intimité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va écouter la première, c'est la question d'Alain.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous téléphone, en fait, j'ai entendu dire qu'il y aurait un nouveau traitement efficace contre la sclérose en plaques. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Alors, vous avez bien entendu, Sandrine, effectivement, il y a des chercheurs français qui ont publié des résultats très intéressants récemment, avec des nouvelles encourageantes dans certaines formes de sclérose en plaques. Alors, il s'agit de résultats obtenus avec un médicament qui s'appelle le masitinib, produit par le laboratoire AB Science. Et pour en savoir plus, nous avons interrogé le professeur Patrick Vermersch, professeur de neurologie à l'Université de Lille et coordonnateur principal de l'étude qui a justement testé cette molécule.
Effectivement, c'est une vraie bonne nouvelle pour des patients qui souffrent de formes progressives de sclérose en plaques. Et il est vrai que pour les formes progressives, malheureusement, à ce jour, nous n'avons rien ou presque rien. Alors c'est environ 50%. Donc si on estime qu'à peu près 100 000 patients qui souffrent de sclérose en plaques en France, ce médicament pourrait être une véritable avancée pour 50 000 patients. Et c'est là la force d'un médicament comme le masitinib, qui pourrait être le premier médicament d'une nouvelle classe, qui cible justement des cellules qui sont impliquées dans le système nerveux de ces patients. Et ça, on l'ignorait il y a encore quelques années. On ralentit la progression, en fait, de la maladie. La maladie, malheureusement, on peut craindre que chez encore des patients, elle évoluera, mais elle évoluera moins vite. Et on espère qu'un grand nombre de patients seront stabilisés. Alors, si on peut commencer assez vite la deuxième étude qu'on appelle confirmatoire et que les résultats sont positifs, comme on peut s'y attendre au vu des résultats préliminaires, on est quand même à 2024.
2024, c'est pas si loin. Très bonne nouvelle, hein, Jimmy, pour ces patients. Donc atteints d'une forme progressive, qui est la moitié des patients quand même.
C'est ça, pour lesquels on n'avait absolument aucun traitement. On traitait au coup par coup, parfois on donnait un peu de cortisone, mais donc c'est une véritable piste d'espoir avec peut-être un vrai traitement et des mesures concrètes pour la moitié des malades qui souffrent de cette pathologie.
Merci Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est celle d'Aurélie. On va l'écouter tout de suite.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je suis professeure de danse et j'avais une question car en enseignant, je porte moi-même le masque et je l'impose à mes élèves à partir de 11 ans. Je voulais savoir s'il y avait un réel impact sur la santé et ce que vous en pensiez. Merci de votre réponse.
Jimmy, une question pour vous, donc une question autour du coronavirus. On en a quasiment tous les jours, donc on continue évidemment d'y répondre. Pour la pratique de la danse, comme le signale Aurélie, c'est pas obligatoire aujourd'hui. Pourtant, la danse classique, moderne, enfin toutes les sortes de danse, ça se fait dans des espaces fermés.
Exactement, c'est pas obligatoire, mais est-ce que c'est absurde? Peut-être oui, c'est exactement la même problématique dans les salles de sport où vous devez porter un masque entre deux exercices, entre deux machines, mais au moment où vous faites l'effort, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'en porter. Or, c'est dans cette situation-là, on va propager le plus de virus.
Parce qu'on est en hyperventilation.
Vous respirez donc, de plus en plus fort. C'est un système d'aérosol. C'est comme si vous mettiez du déodorant en permanence. Vous gardez le bouton appuyé dessus et donc vous libérez du virus en permanence. La salle est fermée, il y a du monde. Et donc, c'est dans cette situation où, normalement, on devrait porter un masque.
Et donc, la question d'Aurélie, elle est justifiée. Est-ce qu'elle court un risque à donner des cours toute la journée à des élèves non masqués qui sont dans l'activité physique,
hein? Oui, évidemment, elle court un risque. La question, c'est quel est ce risque? Il dépend de plein de paramètres pour lesquels on n'a pas forcément de réponse. Un, c'est la taille de la pièce. Il est évident que si vous avez une énorme superficie avec une pièce qui est très bien ventilée et peu d'élèves dans la pièce, vous avez nettement moins de risques que si c'est une petite salle de classe avec beaucoup de monde, qui est pas aéré ou qui est mal ventilé.
S'il y a des fenêtres, on les laisse ouvertes.
On les laisse ouvertes en permanence. Mais c'est vrai que c'est dans cette situation où on devrait porter un masque, puisque c'est là où on peut tomber malade, où elle risque effectivement de rencontrer des gens. D'autant plus qu'on sait que les personnes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de symptômes, ont autant de virus que les personnes qui vont avoir de la fièvre et tousser. Donc elles sont aussi contagieuses que les autres. Et donc c'est certainement dans ces endroits où on devrait porter un masque.
Puisqu'elle est incapable de savoir quel est son élève qui a potentiellement le coronavirus ou pas, est-ce qu'elle peut peut-être demander malgré tout
à ses élèves d'être sympa, c'est une mesure de bon sens, mais après il faut quand même dire que c'est compliqué de faire du sport avec un masque, on a du mal à le porter toute la journée, et puis lorsque vous respirez beaucoup, lorsque vous transpirez, eh bien le masque va être humide et moins efficace rapidement, donc il faudra absolument le jeter après votre cours et ne pas le réutiliser, ou tout du moins prendre un autre masque en tissu et de laver pour éviter que ça se transforme en véritable passoire à virus.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Si vous aussi qui nous écoutez, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est Anna Roy, elle est sage-femme libérale. Et avec elle, nous parlerons de la grossesse sans détour, sans tabou, des bobos qui vont parfois avec et qui peuvent peut-être un peu gâcher les choses. Tout ça, c'est dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est vous Anna Roy, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes sage-femme libérale et chroniqueuse à la maison des maternelles sur France 4. Jimmy ne pourra pas dire le contraire pour des raisons personnelles. Vous faites, c'est clair, le plus beau métier du monde. Hein Jimmy?
Ah bah oui, non mais si en plus ma femme qui écoute, j'ose dire que ce n'est pas le plus beau métier du monde. Mais ce qui est vrai effectivement, ça reste... Malgré tout, à mon sens, c'est vrai, le plus beau métier du monde.
Alors, raison pour laquelle, Anna, justement, Europe 1 Studio, avec vous, vous avez voulu faire donc, un podcast avec vous, que ça s'appelle Bon, là, je vais y arriver. Jimmy, ça s'appelle comment le podcast?
Sage-meuf.
Sage-meuf, voilà. Sage-meuf, ça sort le mercredi 30 septembre et on va écouter justement un petit extrait.
Je vais vous ouvrir les portes de ma maison, de mon hosto et des appartes des couples que j'accompagne en ville. J'ai envie de vous emporter dans le tourbillon de la vie qui vient en vous racontant mon histoire, leurs histoires. Et si j'ai envie de vous parler de tout ça, sans phare et sans tabou, c'est parce que j'en ai marre de voir des femmes enceintes qui se sentent nulles, des parents qui se sentent incompétents, des personnes qui se sentent seules face aux coups durs de la vie. Parce que l'image de la femme, de la jeune mère ou du parent, elle se forge où ? Sur Instagram, avec des femmes qui perdent 10 kilos en 24 heures, ou dans les magazines People, avec Kate ou Meghan, qui resplendissent quelques jours après leur accouchement. Alors qu'en fait, la réalité, c'est pas celle-là. Et elle est vachement plus belle à voir.
Alors ce podcast, il sort la semaine prochaine à Anna Roy. Vous pourrez tous qui nous écoutez le retrouver sur europe1.fr et on peut d'ores et déjà s'y abonner sur Apple Podcast ou sur toutes les plateformes habituelles d'écoute. Là, je suis vraiment pas bonne, hein, Jimmy. On peut le trouver sur ailleurs hein, que sur Apple Podcast ou ça.
Oui, mais c'est déjà très bien. europe1.fr aussi, Apple Podcast.
Très bien. Voilà.
Si vous avez des problèmes d'élocution, on a des orthophonistes très compétents dans notre réseau. N'hésitez pas, Mélanie.
Très bien. Aujourd'hui, Anna, on va s'intéresser avec vous à la grossesse et on va commencer par quelques petites choses autour de l'alimentation des femmes enceintes. Ouais. D'ailleurs, quand on porte un bébé, il faut vraiment changer finalement, parce qu'à une époque on disait qu'il faut manger pour deux, on sait très bien aujourd'hui que ça c'est complètement faux, mais est-ce qu'il faut changer beaucoup de choses dans son assiette? Est-ce qu'il y a vraiment, je ne sais pas, des vitamines ou des oligo-éléments qu'il faut augmenter, j'en sais rien, dans sa ration journalière?
Non, pas vraiment, mais en fait je pense que ce qu'il faut faire c'est en profiter pour prendre de bonnes habitudes. La grossesse c'est un peu un moment où on fait un check-up, enfin on se fait une espèce de... on peut changer de vie. C'est un peu comme le confinement, vous voyez, donc on peut se dire, je vais en profiter pour utiliser d'autres types de produits ménagers, je vais utiliser... Par exemple, je vais passer au bio pour l'alimentation. Donc, je pense que c'est pas mal de se dire « Ah bah tiens, quels efforts j'ai envie de faire pour avoir une alimentation diversifiée ?» Mais il n'y a pas besoin non plus de devenir psychopathe et de contrôler absolument tout ce qu'on met dans son assiette. Vous voyez, mais passer au bio, par exemple, je trouve que c'est le bon moment, ouais.
Jimmy ?
Et s'il y a une vitamine qu'il faut prendre pendant le début de la grossesse ou en tout cas quand il y a un projet, il y a une chose quand même qu'il faut prendre.
Oui, bien sûr, il y a l'acide folique. Mais ça, d'ailleurs, on le prescrit d'ailleurs sur ordonnance. C'est des petits comprimés qu'on prend tous les jours. Ça, c'est pour des raisons médicales, vous savez, c'est pour que le tube neural, enfin la colonne vertébrale se ferme bien. Mais puis après, il y a du fer.
Enfin, bien sûr qu'il y a des grossesses,
voilà,
importantes.
Évidemment qu'il y a des nutriments. Mais je vous assure qu'une bonne alimentation couvre l'essentiel des besoins.
Et pas
sauf
de
le fer et l'acide folique. Non,
de
absolument pas. Vous savez que les compléments alimentaires, souvent c'est synthétique, donc ça s'assimile moins bien.
Mmh. Jimmy ?
Vous dites une chose assez perturbante, qu'il faudrait manger du boudin toutes les semaines quand on est enceinte.
C'est un peu exagéré, mais c'est vrai que pour mes patients qui aiment bien la viande, c'est un fer qui s'assimile très bien puisqu'il est d'origine animale. Why not pour celles qui ont des carences en fer,
et qui aiment ça, parce que bon,
voilà,
c'est pas
obligatoire
non plus.
Mais en fait, du fer, vous en avez partout. Vous en avez dans des fruits secs, dans plein de choses.
Oui, même si c'est effectivement important de dire que le fer, lorsqu'il est d'origine animale est mieux assimilé Exactement. Que le fer d'origine végétale, pour laquelle, raison pour laquelle voilà. il faut faire attention quand on est enceinte.
Mais moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que mes patientes végétariennes, elles sont très sensibles à ce genre de questions. Donc en fait, elles arrivent à mettre dans leur assiette tout ce qu'il faut pour ne pas être carencées.
J'allais vous poser la question, justement, c'est quand même la grande mode en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui deviennent végétariens, il y en a qui le sont depuis longtemps, mais il y en a qui le deviennent. Est-ce que pendant la grossesse, ça peut être un problème? Est-ce que le végétarisme, ça, c'est compatible avec le fait de porter un bébé?
Oui, c'est tout à fait compatible parce que c'est, comme je vous le disais, c'est des femmes qui sont vraiment particulièrement attentives à leur alimentation et donc elles font assez gaffe. C'est, en général, elles ne se lancent pas comme ça et donc elles couvrent avec. Elles sont même des fois moins carencées que les autres parce qu'elles font hyper gaffe à ce qu'elles mettent dans leur assiette. Après, pour ce qui est du végétalisme, alors là, j'en sais rien parce que je ne suis pas assez calée sur la question. Je pense que c'est mieux de s'adresser à un nutritionniste quoi, parce que pour le coup,
Il y a un risque de carence en vitamine B12 lorsqu'on est végétaliste. Donc, c'est-à-dire qu'on exclut les produits issus des animaux. Donc, il faut vraiment l'éviter ou tout du moins être suivi par un vrai nutritionniste. En revanche, il y a un consensus. L'alcool, c'est zéro goutte d'alcool pendant la grossesse.
Alors là, pour le coup, je suis ferme. C'est la première cause de handicap mental hors origine génétique en
France.
Vous
envoyez des bébés qui naissent encore avec des
Absolument.
Des
là-dessus, il ne faut pas rigoler. Ouais. Malheureusement, je ne peux pas dire aux femmes, on ne sait pas le seuil à partir duquel ça devient dangereux. Donc, si j'aimerais pouvoir leur dire, mais buvez une coupe de champagne. En fait, non, j'en sais rien.
Donc c'est zéro.
Jimmy. Un jour, peut-être qu'on progressera. On saura.
Et vous avez dit que mieux vaut manger bio quand on est enceinte? Parce que finalement, l'impact des pesticides...
Moi, je suis... Clairement, c'est comme j'évince volontiers les produits ménagers, les teintures pour cheveux, plein de choses. Je pense que oui, plus on limite, mieux c'est. Mais pour le bébé comme pour soi. Hein.
Et puis si jamais on ne mange pas bio, il faut éviter certaines choses crues, notamment le poisson.
Bien sûr, les choses crues, les produits ultra transformés. Après, ça dépend. Si vous savez, il y a une histoire de toxoplasmose. La listériose, ça c'est pour tout le monde, il faut faire gaffe. Et la toxoplasmose, ça dépend de son statut immunitaire qu'on contrôle avec une prise de sang en début de grossesse.
Anna Rouen, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à parler de la grossesse avec des conseils, des astuces, notamment pour soulager les petits bobos qui viennent souvent la perturber. On y revient très vite. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Sur notre plateau aujourd'hui, notre invité, c'est vous, Anna Roy. Vous êtes sage-femme libérale. Vous êtes chroniqueuse également à la Maison des Maternelles sur France 4. Et à présent, on va passer avec vous à ces mots, à ces bobos qui peuplent beaucoup de grossesses. Pas toutes, heureusement. Le premier désagrément, en tout cas, dont souffrent beaucoup de femmes enceintes, c'est bien souvent la fatigue. Pourquoi ça démarre souvent comme ça, une grossesse?
Eh bien, parce qu'on a une hormone qui s'appelle la bêta-HCG au plafond et que cette hormone, on sait qu'elle a un rôle fou. On est crevé. C'est le premier symptôme de la grossesse. Il y a même des femmes qui s'en aperçoivent comme ça.
Ouais, elles sont crevées. Donc,
crevées. Et elles ont...
Comment on lutte contre ça? Ça dure combien de temps, cette fatigue?
Eh bien, il ne faut pas lutter. Je crois qu'il faut se dire que c'est comme ça.
Et on va dormir comme un loir.
Exactement. Souvent, les femmes se disent « Ah non, il ne faut pas que je m'endorme à 21h, ça ne se fait pas, etc. » Bah si, vous avez envie de dormir à 21h, vous allez dormir à 21h. Il faut juste expliquer des fois aux conjoints qui trouvent ça bizarre. Ils disent « Putain, ma femme s'est transformée en limace. » Non, c'est pas grave. Vous allez vous coucher à 21h et ça va passer.
Très bien. Jimmy.
Même chose qui arrive en même temps pendant le premier trimestre, c'est les nausées, les vomissements. C'est aussi lié à cette hormone qui donne aussi ces symptômes qu'on dit sympathiques.
Ouais, c'est pas sympa. Ouais. Bah alors pour le coup, ça, c'est vraiment pas sympa. Ça touche 2/3 des femmes enceintes.
Quand même. Hein, ouais.
C'est pas mal, hein?
Ouais.
Et ça, alors pour le coup, ça empoisonne la vie. Moi, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à arrêter ces femmes de travailler parce que ça, vraiment, c'est empoisonnant.
Les médecins parfois hésitent pour ça.
Mais oui, je trouve que c'est dommage. Donc, à chaque fois, je peux le dire, je le dis. Il faut arrêter ces femmes. Elles se reposent qu'un jour et souvent, ça va mieux. Donc, et puis, il y a la forme compliquée, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais de l'hyper-MS gravidarum. Et là, pour le coup, il ne faut pas hésiter à aller aux urgences.
Elles
vomissent. Et surtout, il y a une perte de poids qui est associée d'environ plus de 10%. Plus de 10%, c'est vraiment notre signal d'alerte. Là, il faut aller aux urgences pour consulter.
Comment on traite, alors pas quand c'est grave comme ce que vous venez de décrire, mais comment on traite, comment on peut améliorer les nausées?
Alors, il y a vague traitement médicamenteux, mais en fait, il n'y a rien d'efficace. La vérité, c'est que si j'avais le traitement, je serais millionnaire.
Bon, et qu'on donnait petit gâteau au gingembre, ça aidait un petit peu.
Voilà,
mais
alors, infusion de gingembre. Moi, je dis aux femmes de se râper du gingembre, de le mettre en infusion. Elles le boivent tout au long de la journée dès qu'une nausée survient. Mais enfin, ce n'est pas miraculeux. Et puis, vous avez l'huile essentielle qui est pourtant déconseillée pendant la grossesse, mais on peut en mettre 2 gouttes sur un mouchoir et respirer.
Juste ça.
À distance, ouais. D'huile essentielle de bergamotier.
Jimmy, bon, vous, les nausées, ça vous a pas touché pendant la grossesse?
Non, ça l'aime, mais ça a touché malheureusement la femme qui a vraiment souffert pendant ces 3 grossesses. Ouais. Mais ce qu'on se disait, c'est que parfois, c'est un mal pour un bien dans un sens, puisque finalement, plus une femme a des nausées importantes et des vomissements, sauf quand évidemment on arrive au stade où on doit être hospitalisé pour perdre de poids, plus ça veut dire que le taux d'hormones est au plafond et ça veut dire que l'embryon ou le fœtus est mieux accroché. Et donc en fait, on limite son risque de fausse couche au premier trimestre si on a beaucoup, beaucoup de nausées. Donc c'est une façon d'accepter les choses, même si c'est pas terrible. Mais aussi, parfois, on leur dit que c'est lié à la faim. Donc il faut essayer de manger un peu en continu, de fractionner l'alimentation pour éviter cette nausée qui, en fait, n'est peut-être pas forcément une vraie nausée. C'est peut-être l'estomac qui est vide et
ouais,
qui doit être rempli
fait.
Petit à petit.
On dit aussi d'avaler un truc avant de se lever. Enfin, il y a plein de petits conseils comme ça.
Mais bon, il faut s'y faire. Trop deux tiers des femmes y ont droit. Jimmy.
Un autre bobo de la grossesse, c'est le mal de dos. Est-ce que c'est quelque chose qui est très fréquent et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de se soulager?
Le mal de dos, c'est hyper fréquent. Et la grosse idée reçue, c'est quand on a mal au dos, on se repose. Encore plus quand on est enceinte. Et il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut bouger. Le traitement d'abord du mal de dos, c'est le mouvement.
Et y donc, compris pendant la grossesse.
Y compris pendant la grossesse.
Slogan de l'assurance
si vous
maladie.
N'avez, si vous n'avez pas de contre-indication particulière, moi je dis toujours, vous prenez un podomètre et vous faites au moins entre 8 et 10 000 pas par jour.
Vous les faites marcher les femmes enceintes.
Voilà,
hein.
Alors je fais ça, donc je leur dis de faire ça pendant 10 jours et au bout de 10 jours, on fait un point. Et dans ce cas-là, je peux conseiller d'autres choses. Ça peut être une Swiss ball, là, je ne sais pas si vous voyez ces gros ballons sur lesquels s'assoit.
Ça marche pour le dos.
Ouais, ça marche. Il peut y avoir aussi des ceintures de maintien qui maintiennent juste le bassin, qui peuvent être intéressantes. Mais globalement, toutes les femmes enceintes ont mal au dos, presque toutes.
Natation, ça peut être un bon
natation,
remède.
Natation, très bien. Ostéopathie, acupuncture, après, tout, il y a toutes sortes de moyens. Mais vraiment, je vous assure, la plupart de mes femmes enceintes, une fois que je les fais marcher, elles arrêtent d'avoir mal au dos.
Le podomètre, finalement. Ça, c'est la solution dans beaucoup de problèmes, hein, Jimmy.
Effectivement. D'autres désagréments pendant la grossesse, c'est les problèmes liés au transit. Alors, ça va de l'estomac jusqu'au côlon. Elle souffre aussi souvent, malheureusement, pendant cette période.
Exactement.
Et vous pourquoi
Le reflux, c'est assez logique. C'est-à-dire vous avez un gros bébé,
un bébé
dans le ventre. Voilà, le contenu de l'estomac remonte. Surtout qu'en plus, ce qui assure la contention, normalement, est un peu ramolli.
Tout est relâché.
Voilà.
À cause des hormones, en fait,
ouais,
c'est ça.
Exactement. Et donc, ça brûle. Et là, pour le coup, il y a des fois, les traitements médicamenteux sur ordonnance sont absolument indispensables.
Ouais, à la fin, ça peut devenir effectivement vite insupportable.
Parce que c'est pareil, les petits conseils ne sont pas suffisants. Et après, la constipation est presque physiologique quand on est enceinte. Moi, je ne suis pas pour donner des traitements spécialement, sauf si c'est vraiment handicapant. Il faut accepter.
De l'eau, il y a des eaux supplémentées
en magnésium.
Vous
avez des eaux supplémentées, les fibres, le mouvement.
Ça peut aider un peu.
Ouais.
Pas trop. Hein. Vous n'êtes pas hyper optimiste.
Non, moi, je suis honnête.
Elle est franche.
Moi, je suis honnête, je ne mens jamais. Il se trouve que souvent, il faut accepter d'avoir un transit un peu plus ralenti.
D'accord. Autre problème qui peut arriver pendant la grossesse, celui-là, je le connaissais moins, des bouffées de chaleur. Moi, je pensais que c'était plutôt un truc pour plus tard, pour la ménopause, mais pendant la grossesse aussi.
Alors après, vous avez toute une palette. Vous avez bouffées de chaleur, transpiration. Il y a des femmes qui ont besoin de cracher, qui sont obligées de s'armer d'un crachoir carrément sur leur lieu de travail. Vous avez tout un tas de...
Toutes celles qui se demandaient, tiens, je ferais bien un bébé, je pense qu'elles ont peut-être changé d'avis là aujourd'hui.
Mais après, ce sont que... Enfin, c'est vrai que c'est pénible, ce sont des trucs pénibles.
Surtout, là, vous dites, elles prennent un crachoir, elles vont cracher, mais l'hypersalivation, quand on salive énormément, c'est un véritable handicap
pour la grossesse.
Ah non, mais c'est l'enfer. Vraiment,
il y a des femmes qui ont besoin d'un crachoir.
Ouais. Mais après, vous avez des femmes qui n'ont rien de tout ça. Moi, j'ai traversé deux grossesses sans rien. Ça peut arriver.
Vous avez été vénarde.
Voilà, c'est ça. Non, mais on peut avoir de la chance aussi.
Mais l'hypersalivation, c'est fréquent pendant la grossesse? Moi, je savais même pas que ça existait.
Bah ouais, un peu.
Ouais. C'est pas mal, mais ça bave comme un crapaud. C'est pas sexy, ça peut craquer, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il faut faire avec, il faut leur dire crachez, prenez un mouchoir. Alors, en période de Covid,
C'est ça. Là,
c'est compliqué.
Les femmes, elles me disent arrêtez-moi, je vous en supplie, parce que là, quand je crache au bureau, tout le monde est là. C'est pendre au rideau.
Anna Rouen, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. Alors jusque-là, on a surtout parlé des désagréments de la grossesse, pas très sympa. Mais à présent, on va passer à des choses peut-être plus agréables, sexualité et grossesse. Car oui, avec quelques adaptations, quelques précautions, on peut sans problème continuer ce pan de sa vie de femme lorsqu'on est enceinte. On y vient dans quelques minutes. Alors restez sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Anna Roy, vous êtes sage-femme libérale et chroniqueuse à la Maison des Maternelles sur France 4. Alors à présent on va parler d'un sujet peut-être un peu tabou, mais peut-être plus sympa que ce qu'on a dit tout à l'heure, tous les bobos de la grossesse. On va parler de la vie sexuelle finalement des femmes enceintes. Elles se retrouvent souvent, parfois, vous allez nous dire, mises de côté à ce moment-là de la vie. Pourquoi ?
Pas tant que ça en fait, ça c'est un peu une idée qu'on aurait que les femmes enceintes n'ont pas de vie sexuelle, c'est pas vrai du tout. Ça dépend des femmes en fait, il y en a qui en ont plus du tout, il y en a qui en ont beaucoup plus et il y en a pour qui ça va fluctuer comme ça au fil des mois, mais non, les femmes enceintes ont une vie sexuelle.
Il y a beaucoup d'idées reçues, on dit notamment que bon, au premier trimestre la libido diminue peut-être nausée faisant, que ça remonte ensuite au deuxième trimestre, où là c'est la fête, et qu'au troisième trimestre alors là ça s'arrête complètement. C'est vrai cette petite règle-là
C'est un peu mais pas trop. Ouais. Un peu, mais pas trop. Non, ça dépend vraiment de chaque femme. Ça dépend du travail qu'elles font, ça dépend du mec qu'elles ont ou de l'amoureuse qu'elles ont. Enfin, moi je trouve pas que ce soit très vrai ça.
Ouais, Jimmy ?
Mais ça peut être problématique si jamais une femme éprouve du désir pour son conjoint ou peu importe. Et que celui-ci ne répond pas, ça peut être problématique de se sentir rejeté.
Souligner un
pendant...
truc important parce que c'est pas toujours du fait des femmes.
Exactement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir communiquer en couple et dire voilà ce que j'ai envie, voilà ce que j'ai pas envie, et faire des points d'étape réguliers parce que sinon il y a des frustrations qui se cumulent, et puis surtout des malentendus. Par exemple, les femmes imaginent volontiers que les hommes ont plus de désir parce qu'ils les aiment plus, parce qu'elles ont changé de statut, ou je sais pas, des conneries de ce genre, alors que c'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'il faut savoir mettre 4 sur table assez régulièrement en se disant voilà où on en est chacun l'un et l'autre.
Oui, parce que ça arrive quand même, il y a beaucoup de mecs comme ça qui se retrouvent bloqués un peu aussi, parce que y a, les hommes aussi ont des idées reçues dans leur tête, ils croient qu'il y a ce bébé au milieu qui peut ressentir des choses, il n'y a rien qui est possible.
Oui, oui, ils ont souvent une image un peu surdimensionnée de leur attribut. Et donc, ils s'imaginent qu'ils peuvent faire mal au bébé ou qu'ils peuvent.
Ça, c'est pas possible.
C'est impossible, promis.
Impossible.
Impossible.
Oui,
mais vraiment.
Vous dites faire mal au bébé, mais ils peuvent même pas le toucher de toute façon, même avec.
Non.
Souvent, un homme pense avoir un gros zizi.
Oui, c'est impossible.
Voilà. Impossible. C'est jamais arrivé.
Déjà, avec nos doigts, on a vraiment du mal à. Nous, les sages-femmes médecins, on a du mal à, des fois, à sentir la tête d'un bébé. Alors, imaginez-vous, non.
C'est impossible.
C'est impossible.
Voilà. C'est une fois pour toutes.
Non, là, il faut rassurer.
Jimmy.
Et donc, pas de problème, donc pas de risque mécanique, mais pas non plus risque de faire mal ou d'entraîner une fausse couche ou peut-être de déclencher l'accouchement ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème à avoir des rapports sexuels pendant la grossesse.
Aucun problème à avoir des rapports sexuels pendant la grossesse. Il y a en fait, les contre-indications sont extrêmement rares. Donc non, il n'y a aucun problème à avoir des rapports sexuels pendant la grossesse. Ça ne peut que faire du bien.
Au dernier trimestre, il y en a certains qui croient que justement que ça peut provoquer l'accouchement par exposition du col avec le sperme qui serait, maturerait le col.
Alors,
c'est vrai ou pas ça?
C'est ce qu'on appelle le déclenchement à l'italienne. Il faut savoir, dans les autres pays du monde, on appelle ça le déclenchement à la française.
Ah, c'est bon, je ne savais pas.
Cocorico, décidément.
D'accord, moi je connaissais la méthode italienne, on m'en avait parlé, parce que quand on arrive à la fin, on a envie que ça sorte. Hein,
c'est la méthode
on nous
à la française.
Pas mal de choses.
Et donc en fait, c'est parce que dans le sperme, il y a des prostaglandines et que le col, à la fin, la grossesse peut éventuellement être réceptif à ces prostaglandines et donc déclencher l'accouchement. Mais attention, c'est pas 100%. Hein. Ouais. Ça peut marcher, mais c'est pas du tout
automatique.
Sinon, on l'utiliserait comme moyen de déclenchement systématique dans les maternités françaises. Ce n'est pas encore le cas.
Jimmy.
Et puis parfois, pendant la grossesse, notamment en fin de grossesse, on est un peu embêté avec le poids, on ne s'est pas forcément très à l'aise. Est-ce que vous avez 2-3 conseils pratiques pour justement peut-être une sexualité en toute harmonie ou en tout cas en toute bienveillance?
Alors, on voudrait absolument que j'apprenne aux femmes à faire l'amour parce que sous
prétexte
qu'elles sont enceintes.
On veut le Kama Sutra de la grossesse.
Voilà, voilà, ça. Je n'osais pas le dire, mais donnez-nous deux positions.
Moi, je le dis, allez,
plutôt.
Alors, je fais.
C'est quoi le plus pratique et le plus sûr?
Mais non, mais c'est impossible. Je me refuse à le faire. Ce n'est pas parce qu'elles sont enceintes que je vais leur apprendre à descendre les escaliers. Même hors grossesse, il y a des positions qu'on préfère et des positions qu'on n'aime pas du tout. Et ben, quand on est enceinte, c'est la même chose. Un peu de bon sens. Si effectivement, à chaque fois qu'elles se mettent sur le dos, elles font un malaise et elles ne vont pas spontanément faire le missionnaire.
Et pourquoi elles feraient un malaise en se mettant sur le dos?
Parce qu'il y en a pour qui le bébé comprime les gros vaisseaux qui sont à l'arrière et donc ça peut donner des malaises. Mais c'est pas toutes les femmes. Donc c'est pour ça que vous allez lire partout pas de missionnaire quand on est enceinte. Mais
c'est faux.
La plupart, elles supportent très bien le missionnaire.
Y a pas de
donc
problème.
Bref, chacun fait bien ce qu'il veut.
Il y a un côté à privilégier si on aime faire ça de côté. Parce qu'il paraît
Non, mais il paraît qu'il y a
un côté sur lequel il faut pas
tout
se coucher quand on est enceinte parce que je sais pas pourquoi ça comprime l'artère.
Non, tout ça est faux. Pas de levrette non plus parce que je sais pas quoi ça ferait. Pas quoi au bébé, tout ça est faux. On fait bien ce qu'on veut, absolument.
Jimmy.
Et en postpartum, après l'accouchement, au bout de combien de temps on peut reprendre des rapports sexuels?
Alors en fait, ça va dépendre des situations de l'accouchement. Assez vite, en réalité, à partir du moment où on n'a plus de points, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, il y a très peu de couples qui reprennent vite les rapports. Souvent, les femmes se disent « Ah, c'est la pression, c'est la pression ». En réalité, les couples en moyenne reprennent entre 3 et 6 mois après l'accouchement plutôt.
Ah Jimmy, oui. Il a ouvert grand les yeux, je sais pas pourquoi.
Parce qu'en fait, j'ai regardé les chiffres. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était 6 semaines. Et
oui,
en fait, non, les chiffres, c'est 3 mois. Et pour qu'on retrouve autant de couples qui faisaient l'amour qu'avant, il faut attendre un an même.
D'accord, donc ça va tranquilliser pas mal de personnes.
Ouais, parce que les parents, ils disent il faut vite qu'on. Non.
Ouais. Il paraît, alors je sais pas si c'est un mythe ou pas, que les femmes enceintes font plus de rêves érotiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une raison?
Oui, il y a des femmes enceintes qui même jouissent pour la première fois quand elles sont enceintes, qui ont des orgasmes des fois beaucoup plus longs et beaucoup plus intenses quand elles sont enceintes. Donc on peut avoir, au contraire, une montée en puissance de la sexualité. Effectivement, ça c'est très vrai.
Dernière petite question, Jimmy.
Mais j'apprends ces sortes de rêves érotiques. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qu'elles verbalisent ou est-ce que
volontiers, elles le disent. Elles disent, mais est-ce que
mais
c'est
à vous, mais est-ce qu'elles le disent à leur mari? Parce que c'est un peu vexant de se dire, imaginez, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un orgasme lors d'un rêve. Je pense que c'est dur à assumer, à mon sens.
Oui,
pour
mais c'est
papa.
Lui qui est à l'origine de la grossesse. Alors d'une certaine façon,
souvent,
il
n'est
peut-être pas dans le rêve. C'est peut-être pas lui dans le rêve. Attention, c'est peut-être le vrai problème.
Mais c'est vrai que des fois, elles ont des orgasmes beaucoup plus forts. Les hommes se disent que c'est grâce à eux. Écoutez, tant mieux. Hein. Si ça soude le couple, c'est très bien.
Merci beaucoup, Anna Roy, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et je rappelle, donc pour nos auditeurs, la sortie la semaine prochaine, le mercredi 30 septembre, de ce podcast que vous avez réalisé avec Europe 1 Studio. Ça s'appelle Sage Meuf. On pourra le retrouver sur europe1.fr. Et on peut d'ores et déjà s'y abonner sur Apple Podcast ou toutes les plateformes habituelles d'écoute. Merci encore. Europe 1. Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Focus cet après-midi sur les enfants de la Lune. Un très joli nom pour en fait une pathologie génétique rare. On va vous expliquer ce que ça signifie précisément pour le quotidien de ces enfants, les enfants touchés par cette maladie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, nous allons vous parler des enfants de la Lune. Savez-vous, malgré le joli nom de cette pathologie, de quoi il s'agit précisément? Quels sont les symptômes et les conséquences pour les enfants touchés par cette maladie? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est ceux qui ne peuvent pas s'exposer à la lumière, etc.
Je sais pas, des enfants qui dorment tout le temps, qui sont narcoleptiques, non, non, enfin si, c'est ça.
Je pense que les enfants de la Lune, c'est la maladie des personnes qui ne... des enfants qui ne peuvent, qui sont allergiques ou qui sont intolérants aux UV.
Ça leur attaque la peau, quoi. Je pense qu'ils ne doivent pas avoir de protection, donc du coup ça doit leur brûler ou ce genre de choses.
La lumière directe du soleil, ça les... Enfin, je ne sais pas si ça les brûle ou ça leur fait quelque chose.
On donne ce nom d'enfants de la Lune pour pas, enfin, parce qu'ils ne peuvent pas s'exposer à la lumière, donc ils doivent rester un peu dans le noir ou en tout cas pas aux lumières avec les UV, etc.
On peut juste vivre la nuit, quoi.
Le traitement, c'est d'aller voir un spécialiste du sommeil qui va donner des somnifères.
Pour moi, c'est incurable. Enfin, je pense que ça ne se soigne pas et ils auront toujours des séquelles à vie.
Ils doivent se couvrir quand intégralement, ils doivent avoir une tenue ou un truc spécial qui les couvre entièrement, quoi.
Je pense qu'elles vivent comme tout le monde jusqu'à 80 ans. Si elle se protège suffisamment.
Alors Jimmy, expliquez-nous ce qu'implique finalement cette maladie génétique qui a d'ailleurs un nom scientifique moins joli que les enfants de la Lune.
C'est vrai que l'enfant de la Lune, c'est un côté poétique alors que ouais. La maladie est dramatique. Le nom scientifique, c'est xeroderma pigmentosum. Ça veut dire en latin derme sec et pigmenté. C'est moins d'une centaine d'enfants en France qui sont concernés. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces enfants malades? Eh bien, quand tout va bien, lorsque vous êtes exposé au soleil... Vous
ça,
avez
c'est pour votre... vous et moi. Hein,
exactement,
c'est ça.
Quand nous, on est bien portant. Le soleil va agresser l'ADN en nous, de notre peau, et donc on a un système de réparation qui va compenser cette agression. Or, chez les enfants qui souffrent de cette maladie génétique, eh bien, le système de réparation est déficient et va entraîner des conséquences bien plus graves que celles qu'on pourrait imaginer comme un espèce de vague coup de soleil chez les enfants qui seraient fragiles.
Alors, si on expose ces enfants à la lumière, même juste la lumière du jour, on ne parle pas de grand soleil en été, il se passe quoi concrètement pour ces enfants?
Alors, je vous avais dit que l'ADN de la peau de ces enfants ne pouvait pas être réparé, mais pire encore, il va produire une protéine anormale qui risque d'entraîner des cancers de la peau et même des problèmes oculaires. Et on ne parle pas d'exposition au soleil exagérée. Le simple fait de sortir à la lumière du jour pourrait entraîner ce phénomène et entraîner des mélanomes, des cancers de la peau dès l'âge de 20 ans, raison pour laquelle il faut absolument qu'ils soient suivis très régulièrement par des dermatologues.
Alors, si je comprends bien, Jimmy, ce sont des enfants qui ont un risque donc très élevé de cancer de la peau, vous venez de le dire, donc il faut les protéger en fait à tout prix des
exactement.
Ultraviolets, de la lumière du jour.
Surtout que le risque de développer un cancer de la peau est 4000 fois plus important
4000,
que chez des gens
ouais.
lambda non touchés par ce défaut génétique. Et donc, vous avez raison, pour eux, il est vital de les protéger 24 heures sur 24 des rayons ultraviolets. Pardon, et ils ne peuvent sortir que la nuit. Imaginez leur quotidien, c'est très compliqué, d'autant plus quand on a un enfant et qu'on rêve d'explorer le monde qui nous entoure.
Oui, ne pas pouvoir mettre ne serait-ce qu'un petit bout de peau à la lumière du jour, ça doit être effectivement extrêmement handicapant. Alors Jimmy, il n'y a aucun autre traitement pour eux, j'imagine, que la photoprotection, donc le fait de se protéger du soleil. Et donc c'est vraiment la prévention, c'est tout ce qu'on a pour eux aujourd'hui.
Exactement, hein. À ce jour, on n'a aucun traitement efficace pour ces enfants. La recherche continue, et d'ailleurs, vous ne pouvez pas hésiter à donner si vous pouvez donner. Une équipe de l'INSERM a testé une crème sur des souris porteuses de la maladie et les premiers résultats sont encourageants. Cette crème contient une molécule qui fonctionne sur le principe de la thérapie génique. Il s'agit de remplacer le gène malade par un gène sain. Ce sera assez extraordinaire si on peut faire ça avec une petite pommade. Pour l'instant, la recherche évolue, mais pour l'instant, l'espérance de vie est aussi un peu limitée de ces enfants. Donc, on espère que des progrès vont être faits. Et surtout, n'hésitez pas à donner pour cette cause ou pour d'autres ou celles qui vous semblent importantes.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors n'hésitez pas, je pense que c'est évident, il faut rester sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, on a une question qui nous a été envoyée par Émilien. Je vais vous la lire tout de suite. Je fais régulièrement des crises d'eczéma sur le corps et cela me gêne lorsque je rencontre des filles. J'ai peur de ne plus être attirant. Comment y remédier? Alors Catherine, c'est vrai que quand on parle d'apparence, c'est souvent...
on en a déjà parlé dans cette émission, hein, du poids ou de la taille, mais on parle peu finalement de petits détails comme ça qui peuvent être une petite tache sur la peau. Là, on parle d'eczéma, c'est pas un truc. Ça dépend les formes, hein, Jimmy, vous confirmerez ou pas. L'eczéma, ça peut être plus ou moins invalidant physiquement, mais ça, on peut se sentir complexé à cause d'une petite tache d'eczéma, enfin, une petite croûte d'eczéma.
Ce n'est pas tellement parce que ça fait une tache, c'est surtout parce que l'eczéma rend compte d'une fragilité, bien sûr, pour la personne qui le subit, moins physique qu'émotionnelle, une sensibilité, une réaction à des événements parfois, puisque c'est souvent consécutif à des événements psychologiques, même si ça n'est pas que cela, puisque ce sont aussi des systèmes immunitaires qui sont fragilisés. Et donc, du coup, plus l'individu le vit, non pas comme justement, j'allais dire, anecdotique et physiologique, mais émotionnel, plus ça devient quelque chose d'anxiogène. En plus, c'est douloureux, ou ce peut être douloureux, donc ça nécessite de ne pas être trop touché, trop sollicité. Donc, il peut y avoir une appréhension à être caressé, et que justement, la caresse n'amène pas une peau douce, mais une peau rugueuse, et puis aussi un toucher désagréable, qui du coup freine ou met de la distance, ou met de l'inquiétude dans la relationnel.
Jimmy, vous connaissez vous cette maladie et ça peut être très complexant. Hein.
Oui, c'est problématique, mais est-ce que c'est pas plus difficile à vivre pour les femmes puisqu'on leur demande d'être quasiment parfaites, épilées, maquillées, coiffées, tout ce qu'il faut, alors qu'un homme...
Avec la peau douce.
Avec la peau douce, ouais. Un homme, il a pris sa douche et il s'est coupé la barbe, ça s'arrête là. Est-ce que c'est pas plus difficile justement pour une femme que pour un homme de souffrir d'eczéma, en tout cas vis-à-vis dans le regard de l'autre ?
C'est vrai que les femmes sont un petit peu en cette injonction très forte de perfection physique, d'être pomponnées de la tête aux pieds. Mais selon les zones où l'eczéma se trouve, ce peut être quand même très difficile, y compris pour un homme, notamment quand c'est à proximité des parties génitales, notamment, puisqu'il y a une idée de peau à vif, de peau irritée. Et là, c'est plus problématique pour les deux sexes. Hein. Dès que c'est près des testicules, près du pubis, au niveau des jambes, des cuisses, dès que ça approche la zone génitale, c'est très complexant. Sur le visage également, hein, ou le cou, en fait, toutes les zones qui sont plus particulièrement sollicitées. Alors, c'est vrai qu'une femme...
Contagieux pourtant, mais c'est vrai que l'autre, l'être aimé, entre guillemets, peut être un peu repoussé, c'est possible ?
Alors, l'autre peut se sentir comme si c'était effectivement pas agréable et puis abîmé, mais il y a surtout celui qui reçoit aussi, qui a l'impression d'être défaillant, de ne pas être comestible d'une certaine manière.
Jimmy.
Finalement, donc, c'est les deux qui peuvent être perturbés. Mais est-ce que si on s'intéresse à d'autres petits problèmes de peau, comme les boutons qui parfois prennent une proportion assez importante, alors je ne parle pas des adolescents puisque ça peut être un vrai problème, on peut les traiter, mais on a tendance tous à vouloir une peau un peu parfaite, extraordinaire. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt accepter tel qu'on est ? Je ne vous parle pas de l'eczéma qui est surinfecté, tout le tralala, mais d'avoir des imperfections, ce n'est pas très grave. Et puis peut-être d'avoir confiance en soi, ça permet peut-être dans le regard de l'autre d'être un peu plus attirant.
Bien sûr, mais simplement, toutes ces imperfections sur le corps rendent compte de notre regard, justement, que nous avons sur notre petite histoire. Si, par exemple, j'ai une cicatrice d'appendicite, et que ça ne fait pas l'objet de quelque chose d'émotionnel pour moi, que l'on me touche, que l'on touche cette cicatrice ou que l'on caresse cette cicatrice n'est pas problématique. Imaginons, par contre, que j'ai quelque chose, je pense à un monsieur qui avait une tache de vin. Une tache de vin, c'est ni contagieux, ni... Enfin, il n'y a
non,
rien
tout le monde
de...
le sait. Ouais,
voilà. Et qui a une tache de vin sur l'épaule. Il y a des tas de gens qui se font tatouer.
La figure. Quoi,
exactement. Ouais. Donc, il y a des tas de gens tatoués. Donc, on pourrait se dire que c'est vraiment tout à fait anecdotique. Mais il se trouve que pour lui, dans son histoire personnelle, c'était la marque du diable. C'est dans la famille, on disait que c'était une trace de quelque chose, d'une faute antérieure dans les générations qui avait été qui avait fait cette empreinte en quelque sorte. Et donc même se mettre en t-shirt trop découvrant n'était pas possible. Alors pensez donc se révéler nu. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le symptôme, au-delà de la dangerosité ou de la contagion possible, le symptôme que sont nos corps, nos cicatrices, nos petites imperfections rendent compte de choses émotionnelles, et c'est cet émotionnel qui vient tout d'un coup perturber l'aisance de s'offrir corporellement dans le relationnel à l'autre.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, notre grand dossier sera consacré aux conduites à risque des adolescents et plus particulièrement aux consommations à risque comme le cannabis ou l'excès d'alcool. Tout de suite, eux, ils sont en forme sans aucune substance. C'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, au programme d'Historiquement Vôtre, trois personnages qui n'ont rien à voir sur le papier, qui en fait ont un point commun. Stéphane.
Mais oui, ils sont arrivés deuxième alors qu'on croyait qu'ils seraient les premiers.
Mais oui.
Alexander Graham Bell, on croit qu'il a inventé le téléphone. Mais c'est pas lui.
Mais
non.
Si.
écoutez l'émission.
Ah bon.
Buzz Aldrin, on croit que c'est lui qui a mis le premier pas.
Non, sur... ça, bah personne ne le croit.
lui
c'est un vrai deuxième.
Oui, c'est un vrai deuxième.
On l'aime aussi.
Et alors, je découvre que Bill Gates est numéro 2.
Bah oui, c'est un loser, Bill Gates. Hein, il est numéro 2 au classement Forbes des gens les plus riches du monde.
Ah oui, c'est Bezos qui lui passait devant.
Et voilà, il s'est fait Bezos.
Merci à tous les deux. Je vous souhaite une très belle émission. J'en suis sûre qu'elle le sera. On sera à l'écoute. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1. Hein.